On est encore dans la charge émotive de notre dernière entrevue avec l'abbé Claude Paradis sur les 127 noms de gens qui vont être enterrés dans la fosse commune demain. Débile Inchouette est avec nous.
Bonjour.
Merci d'être là, Déby.
Ben, c'est un grand plaisir. Merci de me recevoir.
Es-tu émotive comme moi, toi?
Ben, quand
oui. D'après ton livre, oui.
Oui, très sensible.
Hein?
Oui, très sensible.
C'est quelque chose quand même, ça.
Oui, c'est ouais. Incroyable quand même qu'en 2018, ça existe encore, ça, à Montréal.
Dans ton livre, qui s'intitule « Faut que je te parle », je dois dire à nos auditeurs tout de suite, j'ai beaucoup aimé ton livre.
Oh, merci.
Je me suis même dit, mon Dieu, cette fille a tous les talents. Elle joue. Elle chante. Tu nous as prouvé ça avec ton rôle, de, bien sûr, de Mary Travers.
Oui.
Puis là, tu as fait toute la promotion du film, il y a la tournée. Là. En plus, tu as un spectacle qui s'en vient de chansons, dont certaines, j'imagine, de la Bolduc.
Hein? Oui, il y aura un clin d'œil.
C'est sûr. Et là, ce livre, où tu... En fait, c'était une idée de ton éditeur. C'est genre, débile, le monde t'aime, écris donc quelque chose.
Exact.
Voilà. Et là, tu t'es dit, qu'est-ce que moi dire?
Qu'est-ce que je vais dire? Puis, ben en fait, j'écrivais déjà beaucoup.
Oui, c'est ça.
Je suis quelqu'un qui a toujours tenu des journaux intimes.
Ouais.
Tu sais, qui a toujours mis sur papier un peu ses réflexions et tout ça, ses impressions, ses grands questionnements, grandes angoisses. Puis, je me suis dit, je vais garder ce filon-là. Donc, tu sais, évidemment, j'écris pas à un journal, mais j'écris aux gens, aux lecteurs. J'ai une volonté de leur parler, d'avoir un dialogue peut-être, tu sais.
Moi, j'avais l'impression que tu me parlais direct.
Oui, ben, c'est ce que je voulais avec le livre. J'avais tout le temps l'impression que j'avais une jasette avec le lecteur.
C'est vrai.
Tu sais, je me disais, faut que je te parle, c'est ça. On va jaser.
Et tu donnes le ton d'entrée de jeu parce que, tu le dis toi-même, tu as un corps atypique.
Ouais.
Et tu commences tout de suite en parlant de ton corps, de ton corps de viking.
Ouais.
Et je me suis dit, waouh, elle y va, là. Elle est pas gênée, elle s'assume. Puis, est-ce que les gens te parlent beaucoup de ton corps?
Mais de belle manière, dans le sens que, tu sais, évidemment, on a toujours des commentaires négatifs de temps en temps, entre autres sur ça, mais je pense que ça inspire beaucoup de gens. Je pense que ça peut faire du bien ou donner de la confiance à plusieurs personnes, en tout cas, si je me fie au message que je reçois.
Mais est-ce que tu t'es dit, m'ont réglé ça tout de suite d'entrée de jeu?
Ben oui, mais en fait, c'est surtout parce que depuis que je suis un peu dans la vie publique avec les gens et tout ça, c'est un sujet dont je parle depuis des années, tu sais, dont on me parle aussi, de mon corps atypique, de, tu sais, je suis un peu devenue porte-parole, porte-étendard de la toutoune heureuse et bien dans sa peau et, tu sais.
Il y a Guylaine Gay aussi.
Oui,
je fais une bonne job.
Ah non, puis il y en a plusieurs,
qui est super.
Mais, tu sais, c'est quelque chose que j'ai jamais pu passer à côté. Donc oui, tu sais, d'entrée de jeu dans le livre, je le mets au clair. Puis surtout en disant que c'est ma normalité.
C'est ça. J'aime beaucoup la façon dont t'en parles. En plus, tu en parles de façon imagée. Tu dis mon corps de viking.
Oui. Oui, mais je me suis toujours vue comme un viking. Tu sais, je suis grande,
Est-ce que vous êtes tous comme ça dans la famille?
Du côté des White,
oui,
plus.
Oui, c'est ça.
Ouais, du côté de mon père, on est tous très grands, blonds, yeux bleus. Puis, j'avais aussi envie de parler dans ce chapitre-là à la jeune ou aux jeunes, tu sais.
Qui se regarde.
Ouais, qui essaye de rentrer dans le moule, mais ce moule-là, il n'existe pas pour personne, tu sais. Ou pour, en fait, une petite quantité de gens. Donc, tu sais, voyons donc plutôt notre unicité. Comme une force.
Sauf que toi, il y a des gens qui, tu le dis là-dedans, tu dis, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, mon Dieu, vous avez beaucoup de courage. Puis tu dis, c'est bizarre, là, c'est rendu que le courage est associé à une grosse qui sort de chez elle dans les vêtements de son choix, qui arbore un sourire en fonçant avec plaisir et fougue dans sa journée. Si c'est ça, faudrait peut-être revoir notre définition.
Ouais, le courage pour moi est quelque chose de beaucoup plus noble, beaucoup plus grand. Je me considère pas courageuse à tous les instants dans ma vie, tu sais. Puis surtout pas de juste être grosse et vivre ma vie normalement. Pour moi, c'est pas du courage, mais je comprends que pour des personnes des fois qui tu sais, je veux dire, les standards de beauté nous rentrent dans la tête beaucoup, tu sais, des fois il y a des gens qui sont peut-être coincés là-dedans puis que pour eux, ça leur apparaît comme du courage, tu sais.
Ouais.
Moi, je me dis non, il me semble.
Mais le fait qu'on te dise ça, ça montre à quel point toute l'acceptation du corps, malgré tous les efforts de communication, tu sais, le fait qu'on essaye que ça soit plus un tabou, on a de la misère avec ça, finalement. Là.
Ah oui, absolument. Ouais. Puis,
il y a encore beaucoup de body bashing. Là,
oui, absolument. Puis on est toujours en train de se comparer, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire.
Tout ça t'a jamais dérangé? Jamais, jamais, jamais.
Ah oh, oui, ça, oui, oui. Non, je veux dire, je suis pas à l'abri de ça. Je suis humaine comme tout le monde. Tu sais, il y a des moments où, genre, des journées où je me trouve moins belle que d'autres, ou tu sais, il y a des journées, des fois, où on a un peu moins de confiance, mais j'ai comme décidé que mon bonheur allait pas résider là-dedans.
Ouais.
Essentiellement là-dedans. T'sais, pour moi, il y a tellement d'autres choses dans la vie. Puis, tu sais, évidemment, je veux dire, l'important, c'est d'être en santé, d'être bien, de faire de l'activité physique, de bien se nourrir. Tu sais, je veux dire, c'est pas non plus de juste se laisser aller. Puis, mais il y a quelque chose où je me dis, ça m'appartient pas tout entièrement.
Moi, ce que j'ai aimé aussi de ton livre, c'est que tu as l'air vraiment d'une fille super équilibrée dans ces temps où beaucoup de gens ne le sont pas.
Oui.
Et là, j'ai l'impression que tu es comme beaucoup de gens vont te lire, vont dire, oh mon Dieu, cette fille-là, c'est une vieille âme. Déby, c'est une vieille âme, parce qu'on dirait qu'elle a compris à un jeune âge. Écoute, t'as à peine 30 ans, t'as 32 ans.
32, oui.
Donc, c'est jeune pour comprendre qu'il faut que tu prennes du temps pour soi, qu'il faut pas que tu dises oui à tout, que tu as un chapitre là-dessus. Donc, tu dis des fois, là, je suis comme bonne.
J'arrive
un peu
pas à l'appliquer encore
mais,
à 100%.
Non, mais tu as déjà cette conscience-là, tu sais, puis de prendre du temps, puis de faire des bons choix. Je trouve ça.
Ouais, mais
ça vient douce.
Mais
la sagesse.
J'ai l'impression que j'ai dû rapidement être adulte avant le temps dans ma vie, avec la maladie de mon père, avec tout ça. La vie m'a mis un peu dans ces bottines-là. Ouais. Puis moi, j'ai foncé, sauf que je pense que oui, j'ai un certain vécu qui m'a amené cette espèce de sagesse-là, même si pour moi, c'est encore énormément à acquérir et à appliquer surtout, parce que des fois, tu sais, on se dit quelque chose puis on l'applique pas 100% du temps non plus. Tu sais, apprendre à dire non, notamment, pour moi, c'est le travail d'une vie, là.
Ouais. On va s'arrêter ici. Tu restes avec nous, bien sûr, Debbie Lynch White. Si vous avez des questions, vous voulez lui dire des trucs, gênez-vous pas. 514-790-9850. À tout de suite. Je suis en compagnie de la comédienne, chanteuse et auteure désormais, Debbie Lynch White, qui d'ailleurs va faire un spectacle de chansons. Là. Tu dois être là-dedans. Là.
Oui, on a commencé le travail de création avec mon metteur en scène Frédéric Dubois, puis l'équipe de Spectra. Donc, on est en train là, de sélectionner les chansons, puis voir c'est quoi notre filon dans ce spectacle-là.
C'est un spectacle musical, vraiment.
Moi avec des musiciens.
Un peu de jeu.
Peut-être. T'sais, mon metteur en scène, c'est un metteur en scène de théâtre, mais qui a fait beaucoup de choses musicales aussi. Puis, tu sais, les deux, on s'entend beaucoup sur l'énergie qu'on a envie que ça ait. Puis, oui, je pense que, tu sais, moi, c'est sûr que je vais jaser, tu sais. Mais à ce point-ci, on n'a pas commencé encore concrètement là, à vraiment mettre des idées sur.
Fait que si je peux influencer votre show un peu, on est en brainstorm. Là.
OK, parfait.
Moi, j'ai lu ton livre, Faut que je te parle, puis je trouvais qu'il y avait là-dedans, dans ce ton que tu as. D'abord, tu es drôle.
Merci.
Non, mais sérieusement, c'est drôle de te lire. T'sais, moi, j'ai lu en souriant. Oh. J'ai lu, j'avais le sourire super. Pas mal tout le temps. T'sais.
OK.
Et ça fait du bien. T'sais. Puis quand tu parles à Mark Zuckerberg ou quand tu écris à ta femme, j'allais dire à ta blonde, mais c'est ta femme, vous êtes mariée.
Oui.
Quand tu fais cette belle lettre d'amour, quand tu parles de, par exemple, de ce qui te tracasse aussi, le fait qu'à un moment donné, tu as déjà dit que toi, l'amour, c'était pas pour toi.
Oui.
On en dit toutes des niaiseries. Je pense que j'ai dit quelque chose aussi dans une entrevue à un moment donné, il y a longtemps. Toi, tu t'as relu tes vieilles entrevues.
Ah oui,
puis t'avais
Dieu.
L'amour, c'est pas pour moi.
Je voulais pas le couple, puis je voulais rien savoir. Tu sais, c'est des périodes, je pense, qu'on traverse. Mais je pense qu'à un certain moment aussi, on dirait que j'avais un peu abdiqué sur ça. Tu sais, je me disais, je vais être là. Je vais être l'amie, je vais être la chum de gars, je vais être la confidente et tout ça, mais. On dirait qu'à un moment donné, j'avais comme l'impression que ça serait pas pour moi, ça, l'amour, jusqu'au jour où finalement...
À cause de ton orientation sexuelle ou juste en général?
En général, tu sais, j'ai jamais été une fille qui était très en couple, tu sais, dans mon adolescence ou tout ça. T'sais, toutes mes amies étaient en couple. Moi, j'étais l'éternelle célibataire, puis tu sais... Puis il y a quelque chose où ça me rendait pas triste. Tu sais, on dirait que j'étais comme, je faisais d'autres choses. Tu sais, je me concentrais sur d'autres choses, puis finalement, jusqu'à ce que... L'amour décide qui arrive dans ma vie. Ouais.
Et là, tu dis d'ailleurs, il y a un côté de moi qui a envie de mettre à la face du monde qu'un couple homosexuel peut avoir une famille et être un beau modèle d'amour. C'est très beau ce que tu dis, là. Tu dis en même temps, je sais qu'on ne fait pas un enfant pour ça, mais je nous sens dans un tournant sur notre ouverture d'esprit concernant les familles homoparentales. Je pense que si on avait un enfant, il ne serait peut-être pas de notre sang. Peut-être que j'adopterais un enfant... C'est le fun parce qu'on sent, on est comme dans ta réflexion.
Oui, c'est ça. Puis la réflexion n'est pas aboutie à l'heure où on se parle.
Mais donc, ça te travaille, ça, le désir de reproduction.
Ben, ça me travaille, mais tu sais, je pèse encore les pour et les contre. Est-ce qu'on a envie de ça ou non, de ce mode de vie-là? Tu sais, on pourra s'en reparler dans 10 ans, voir.
Tu parles d'environnement aussi. C'est drôle parce que tu es très à l'image des jeunes d'aujourd'hui qui disent « Veux-tu avoir un enfant dans un monde comme ça? » Ou...
Oui, c'est ça. Je me dis, est-ce qu'on veut faire un enfant ou adopter, tu sais, donner une chance à un petit poupou qui en a déjà pas là. Eu, tu sais. Ouais. Donc, c'est vraiment plein de questionnements que je lance un peu là-dedans. Aux gens en général aussi. Puis, tu sais, je pense que de le mettre sur papier, ça m'aidait aussi à peut-être clarifier ma pensée. Mais ouais, pour l'instant, on n'en est pas là.
On n'en est pas là. Ta femme l'a lu, ton livre?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle en a pensé?
Ouais, elle a beaucoup aimé. Ouais. Elle n'avait pas lu avant qu'il sorte.
Elle trouve pas que t'en dis trop sur ta vie, sa vie, votre vie?
Non, je pense qu'elle a beaucoup aimé. Vraiment, elle a été très touchée. Elle a dit qu'elle a ri, elle a pleuré. Elle a beaucoup aimé.
Parce que donc, pour en venir au théâtre, au show musical, moi, je mettrais des bouts de... Je me disais, il y a comme un travail de stand-up comique qui a déjà été fait là-dedans. Oui. Tu devrais incorporer des parties à ton show musical.
Ah oui, ça serait bon, ça. Puis le vendre à la porte.
Non, tu peux toujours vendre ton livre si tu veux, mais c'est-à-dire que ton show, c'est aussi un peu ça. Moi, je me disais, ah, elle a aussi sûr peut-être... Il y a peut-être un show là, de stand-up comique. L'humour, ça pourrait t'aller aussi.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont fait cette remarque-là, mais sincèrement, là, être toute seule en scène pendant 1 heure et demie, ça, pour moi, c'est du courage.
C'est vrai?
Oui, ça, j'admire beaucoup ça. Ou, tu sais, comme dans J'accuse, une pièce de théâtre que j'ai fait, on avait chacun un monologue de 20 minutes et ça a été le spectacle le plus vertigineux que j'ai fait. Puis j'avais 20 minutes seule en scène. Tu sais, il y a quelque chose de très impressionnant dans ça. Puis je sais pas si j'irais là.
Oh, tu pourrais y aller, je suis sûre. Écoute, on va aller voir ton spectacle, c'est sûr. En tous les cas, si vous voulez vous amuser puis en apprendre plus sur les opinions de Debbie, ben ne vous gênez pas, ça s'intitule « Faut que je te parle », puis elle nous parle, puis c'est vraiment bon. Debbie Lynch-White, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, ça sort demain.
Parfait. Merci à tout le monde. À demain.